voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Michel Alberganti rencontre Françoise Barré-Sinoussi. Ce soir, la fascination pour le vivant.
Françoise Barré-Sinoussi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse en virologie, vous êtes née le 30 juillet 1947 à Paris. Aujourd'hui, vous nous recevez dans votre bureau de l'Institut Pasteur, où vous avez travaillé à partir de 1971, c'est-à-dire depuis pas moins de 47 ans. Votre parcours est remarquable à plusieurs titres. Le principal est bien entendu un prix Nobel que vous recevez en 2008 avec Luc Montagnier et Harald Zurhausen pour la découverte du virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, qui est responsable du syndrome d'immunodéficience acquise, c'est-à-dire du sida. Ce couronnement de votre carrière doit bien entendu, comme toujours, une part au hasard. Pourtant, dans votre cas, cette part apparaît fort réduite tant le cap que vous avez choisi très jeune est resté fixe tout au long de votre parcours. Comme tous les objectifs précis, ce cap peut se résumer en un seul mot, la recherche. Au cours de ces 5 émissions d'Avoix Nues, nous allons retracer la trajectoire aussi passionnante que fertile qui est la vôtre, mais pour définir d'emblée ce phare que vous n'avez jamais perdu de vue, Françoise Barré-Sinoussi, que représente pour vous la recherche ?
La recherche, pour moi, c'est partir d'une hypothèse, essayer de construire une stratégie pour vérifier cette hypothèse, et si cette hypothèse se vérifie, à ce moment-là, c'est à partir des résultats, aller plus loin, aller jusqu'à même développer des outils, justement, en recherche médicale, biomédicale, au bénéfice des patients.
Alors, vous êtes né donc en 1947 dans le 19e arrondissement de Paris, et dès vos jeunes années d'enfant, vous passez vos vacances en Auvergne. Alors, il semble que ces vacances jouent un rôle important dans cette fascination qui se développe chez vous pour les êtres vivants.
Durant ces vacances en Auvergne, c'est vrai que, en tant peut-être qu'enfant unique, j'observais beaucoup la nature. J'aimais beaucoup passer des heures à observer les insectes, les oiseaux, les animaux, les escargots, et un petit peu parfois même, ça m'arrivait de voir deux animaux identiques, de les observer, hein, me semblait beaucoup plus en forme que l'autre. Et je pense, mais c'est là aussi c'est une hypothèse qui mériterait d'être vérifiée, je pense que c'est à partir de ces observations de la nature que cette passion, entre guillemets, pour le vivant est née. Mais bon, bien sûr, j'en ai pas l'assurance.
Est-ce que dans votre famille, il y avait des personnes qui ont participer à cet éveil à la nature ?
Absolument pas. Je suis d'une famille où je suis la seule à m'être orientée vers des études de sciences. Et j'avais simplement ma mère qui, c'est vrai, avait toujours été... c'était une femme au foyer, mais elle a toujours été intéressée par tout ce qui était médical. C'est la seule chose que je peux dire, parce que franchement, au sein de ma famille, je suis même la seule à avoir été sur les bancs de l'université.
Alors, à l'école, très vite, vos résultats reflètent ce goût particulier pour les matières scientifiques, plus que pour les langues ou la littérature.
C'est clair que tout ce qui était sciences naturelles, j'apprenais très très facilement, j'avais tout de suite des notes extraordinaires dès qu'on passait... à des langues ou à la philosophie, alors là c'était assez catastrophique. Et les langues en particulier, j'en parle parce que, bon, après dans ma carrière, j'ai eu beaucoup besoin d'anglais, et franchement, j'étais totalement nulle en anglais lors de mes études. Donc il a fallu après que je rattrape le retard justement. Pour répondre aux besoins en tant que chercheur de la langue anglaise. Donc, bon, c'est vrai, sciences naturelles, sciences physiques, chimie, en fait, tout ce qui était scientifique me plaisait beaucoup. D'abord parce que je pense qu'il y avait, semblait-il, on raisonne. Il y a un raisonnement derrière. Bon, les philosophies, pour moi, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de pensé, mais ça me paraît beaucoup moins concret. En fait, j'ai toujours été attirée par le concret.
Oui, parce qu'il y a quand même un raisonnement en philosophie.
Il y a un raisonnement, il y a de la réflexion, mais ce n'est pas aussi concret réellement que quand on parle de physique, de chimie, de mathématiques et de biologie en soi.
Justement, vous n'aviez pas parlé des mathématiques dans votre première liste des domaines qui vous attiraient à l'époque.
Non, les mathématiques, je les voyais comme un outil. Qui pouvait être bien sûr nécessaire, et il l'est encore plus que jamais aujourd'hui. Mais bon, moi franchement, c'était le vivant qui m'intéressait. Donc forcément, les sciences du vivant.
Alors vous passez votre baccalauréat en 1966, vous avez 19 ans, ce qui n'est pas particulièrement en avance.
En fait, j'avais un an de retard.
C'est ça.
J'avais un an de retard à l'époque, parce que j'avais redoublé à... Je crois que c'était au niveau de la troisième, où j'avais la possibilité de passer à la classe supérieure. Et puis comme mes notes étaient moyennes, il y a eu cette possibilité de redoubler. Et, bon, mes parents ont préféré que je redouble. Et je pense que c'était un bien d'ailleurs, parce que ça m'a fait énormément de bien pour le reste de mes études.
Ça reste un débat aujourd'hui, hein, le redoublement, ouais. C'est contesté par certains.
Tout à fait.
Et là, dans votre cas, ça a donc
dans
été
mon
bénéfique.
Cas, ça a plutôt été bénéfique. Je pense que ça m'a permis de compléter, d'acquérir certaines connaissances qui me manquaient pour être à l'aise dans ces études. Pas justement dans le domaine des sciences du vivant, parce que ça allait tout seul, mais c'était les autres disciplines qui étaient un peu plus faibles. Et donc pour aller au baccalauréat, il faisait un ensemble de disciplines. Donc ça m'a permis justement de compléter sur les disciplines où j'étais moins bonne.
Alors, une fois ce bac obtenu, il faut faire un choix pour vos études supérieures. Et c'est là que vous hésitez entre, et c'est peut-être un choix important, entre la médecine et la biologie ou les sciences naturelles.
Complètement, parce que j'étais, j'étais attiré par les sciences du vivant. Quand on a dit sciences du vivant, bah, il y a soit médecine, soit la faculté des sciences. Alors, j'avais en tête très naïvement que... rentrer en médecine, ça voulait dire de nombreuses années à l'université, des études chères, et que je venais d'une famille assez modeste, donc je me suis dit, c'est peut-être plus raisonnable que je m'oriente vers la faculté des sciences, vers des études de sciences pour faire de la recherche. Mais dans les deux cas, de toute façon... que ça soit médecine ou que ça soit science, j'avais quand même cette envie de la recherche médicale, de la recherche biomédicale. C'était ça qui, avant tout, orientait mes choix. Alors, j'ai choisi les sciences pour les raisons que je viens d'évoquer. Hein, tout simplement parce que je pensais que c'était moins long et moins cher. Après, je me suis rendu compte que j'avais totalement faux. Hein.
Bah, ça a été quand même pas très très long, hein. On va y revenir bien entendu. Vous choisissez la faculté des sciences de l'Université de Paris, alors de quoi s'agit-il? Parce que peut-être qu'aujourd'hui on a perdu un peu l'image de ce que pouvait être la faculté à l'époque.
Bah, la faculté des sciences à l'époque, quand j'ai commencé, j'étais à la Sorbonne, mais très rapidement en fait il y avait déjà Jussieu qui se construisait et donc... je crois que c'est sur la deuxième année ou troisième année, on commençait déjà à avoir des cours à Jussieu. Donc après, c'est devenu Paris 7. On est encore en train de changer d'ailleurs les nomenclatures des universités. Mais c'était, à l'époque, il n'y avait pas Paris 6, Paris 7 quand j'ai commencé. C'était la faculté des sciences de Paris. Et c'était au départ Sorbonne avec des cours à Jussieu.
Et donc, vous avez connu la construction de Jussieu et vous avez basculé un petit peu.
On a complètement essuyé les murs d'amiante, si je vais dire, à Jussieu.
Alors, à l'époque, ça consistait en quoi, la faculté des sciences?
Alors, la faculté des sciences, c'était beaucoup de cours, hein, des cours dans tous les domaines, que ce soit la physique, au départ, la physique, la chimie, la biochimie, la biologie... énormément de cours théoriques, très peu de pratiques, un petit peu de travaux pratiques, bien évidemment dans les disciplines que je viens de mentionner, mathématiques aussi, je n'oublie pas. Très franchement, moi je me posais la question, en étant justement sur les bancs de la fac, où j'allais, qu'est-ce que ça voulait dire d'apprendre tout ce que l'on nous enseignait, à quoi ça correspondait pour pouvoir faire de la recherche plus tard, qu'est-ce que c'était au jour le jour que faire de la recherche dans un laboratoire, tout ça m'était absolument pas évident sur les bancs de l'université. Alors, c'est pour ça que au niveau de la licence, j'ai commencé à me poser des questions si finalement j'étais au bon endroit. En tous les cas, j'avais besoin d'une réponse, de savoir à quoi toutes ces études me servaient et si ça répondait bien à mon aspiration justement de faire de la recherche dans un laboratoire. Donc j'ai cherché un laboratoire d'accueil.
Avant de parler de ce laboratoire, comment vous pouvez caractériser ce problème de relation entre le concret et l'abstrait, puisque aujourd'hui encore, dans les études en général, d'ailleurs pas uniquement supérieures, cette question se pose?
Je pense qu'elle se pose moins qu'à l'époque, parce que aujourd'hui, beaucoup plus qu'à l'époque, je dis pas que c'est parfait aujourd'hui, loin de là, mais il y a des possibilités de stage. Ce qu'il n'y avait pas moi, à mon époque. Donc on n'avait aucun lien avec la vraie vie, j'allais dire, des laboratoires. On était directement basculé du lycée sur les bancs de l'université, qui fonctionnait d'ailleurs très différemment, et ça c'est toujours vrai aussi qu'aujourd'hui, qu'un lycée. On était un petit peu laissé à nous-mêmes, hein, au niveau de l'université, sans avoir réellement la clé du fonctionnement de cette université, et en plus, en ayant des ambitions de carrière, si je puis dire comme ça, sans que personne soit là pour nous expliquer réellement quel était le lien entre ce que l'on nous apprenait et ce que l'on voulait faire.
Qu'est-ce qui vous a manqué à l'époque, justement, dans cette période de faculté?
Des stages.
C'est-à-dire sortir de...
Sortir de l'université, aller voir directement sur le terrain à quoi ça correspondait d'être chercheur, tout simplement. Et avoir peut-être aussi des échanges, des discussions avec des chercheurs.
Vous obtenez votre DEA en 1972, ce qui est relativement rapide par rapport à vos études précédentes. Et même avant de l'obtenir, vous cherchez un laboratoire, comme si vraiment ce besoin était essentiel à ce stade-là de vos études.
Tout à fait, puisque pour moi, cette réponse-là était essentielle, savoir qu'est-ce que je faisais sur ces bancs de l'université. Est-ce que ce que j'étais en train d'apprendre, à quoi ça allait me servir, et est-ce que finalement mon choix de vouloir faire de la recherche sans savoir trop à quoi ça correspondait au jour le jour dans un laboratoire, c'était réellement ça que je voulais faire. Donc j'avais besoin réellement de ce contact avec le laboratoire. Et donc j'ai cherché pendant quasiment un an un laboratoire d'accueil.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les étudiants qui sont dans cette situation, là, donc avant au niveau de la licence ou de la maîtrise, est-ce qu'ils ont aujourd'hui une meilleure vision de ce qui les attend à l'extérieur?
Je pense qu'ils ont cette possibilité d'aller faire des stages, des courts stages, qui n'existaient pas à l'époque. Nous, à l'époque, il n'y avait aucune possibilité pour aller avoir une expérience d'un mois dans un laboratoire. Maintenant, ça existe. Je ne dis pas que c'est simple, parce que c'est vrai que pour avoir moi-même dirigé un laboratoire, on est un petit peu hésitant à prendre des jeunes dans nos laboratoires, parce que c'est vrai que ça prend du temps, que quand on est dans un laboratoire où on travaille sur des agents infectieux, ça demande aussi un certain nombre de sécurité, et que ça n'est pas forcément simple non plus d'accueillir dans des laboratoires des jeunes étudiants. Mais il y a cette possibilité aujourd'hui qui existe, qui n'existait pas du tout à mon époque. Et puis aujourd'hui, il y a des rencontres qui se font, qui n'existaient pas ou peu à mon époque aussi. D'inviter des chercheurs, par exemple, lors de débats à l'université, où les jeunes étudiants peuvent poser des questions aux chercheurs. À mon époque, ça ne se faisait pas. On avait juste les profs, point barre. qui étaient eux-mêmes souvent des chercheurs, bien évidemment. Mais avoir des réelles discussions, conférences, questions-réponses, ça se faisait pas. On était assez passif, j'allais dire, sur nos bancs d'université, alors qu'aujourd'hui, il y a un côté plus interactif, me semble-t-il, même s'il y en a encore, je pense qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à faire.
Par exemple, avec le recul que vous avez aujourd'hui, quelles améliorations vous pouvez imaginer?
Je pense qu'elles sont nombreuses, mais déjà avoir, et ça a été d'ailleurs proposé après les assises nationales de la recherche et de l'enseignement supérieur il y a maintenant quelques années, et je sais que c'est toujours à l'ordre du jour, avoir un meilleur lien entre le lycée et l'université. Ça, c'est quelque chose qui manque de façon très claire. Le passage de l'un à l'autre, d'avoir des personnalités du monde universitaire qui viennent dans les lycées, des étudiants des lycées qui aillent dans les universités avant la fin de leurs études, je pense que ça ferait du bien à tout le monde.
Ça, vous pensez que c'est pas encore assez développé ?
C'est pas encore assez développé, non.
Vous-même, donc, vous faites cette démarche de chercher spontanément un stage avant même d'avoir votre DEA, donc le diplôme d'études approfondies, qui n'existe plus exactement sous cette forme.
Aujourd'hui, maintenant, c'est des masters.
Voilà, aujourd'hui, on appelle ça des masters. Donc, vous partez à la recherche de ce laboratoire qui voudrait vous recevoir en tant que stagiaire
bénévole.
Et alors, comment vous y prenez-vous et quelle est un petit peu la démarche qui permet d'obtenir un tel
alors, poste? Bon, j'ai écrit beaucoup, beaucoup de lettres, envoyé beaucoup de lettres un petit peu partout dans des laboratoires publics, privés, sans aucune réponse, je veux dire. Et après, j'ai commencé à frapper à des portes directement d'universités, de laboratoires universitaires. D'avoir une amie d'ailleurs qui avait eu un peu la même démarche que moi, qui avait trouvé un laboratoire d'accueil à Villejuif, ce qu'on appelle maintenant l'Institut Gustave Roussy, et elle avait eu la possibilité d'avoir un laboratoire qui avait accepté de l'accueillir, qui travaille dans le domaine du cancer. Et je lui en ai parlé, et c'est elle-même qui m'a mis en fait en contact avec le laboratoire de Pasteur de Jean-Claude Sherman.
Alors Jean-Claude Sherman, vous avez prononcé son nom vous-même, c'est quelqu'un qui va jouer un rôle important dans la suite de votre carrière, puisque vous allez rester très longtemps dans son laboratoire avant même de le remplacer, en fait, comme dirigeante de ce laboratoire. Qu'est-ce qui se passe quand on est jeune stagiaire de cette façon et qu'est-ce qu'on découvre, quel rôle on joue dans un laboratoire au tout début?
Ben, on a tout à apprendre. Je veux dire qu'on arrive dans un laboratoire, on débarque et on observe beaucoup ce que font les autres, les discussions qu'il peut y avoir dans un laboratoire. On apprend à faire des manipulations dans un laboratoire, on apprend à tenir des pipettes, des micro-pipettes. On apprend aussi à comprendre les manipulations que l'on fait pour répondre à quelles questions qui est posé avant même qu'on engage cette manipulation. Donc il y a beaucoup de réflexion, de discussion avec les autres. Et puis on apprend aussi à se poser des questions scientifiques. Pourquoi on se pose ce type de questions? C'est parce que en fait, ça demande une connaissance de toutes les avancées scientifiques. Donc ça veut dire qu'il faut lire beaucoup. Lire beaucoup les résultats et les travaux des autres, pour arriver justement à se poser de nouvelles questions et d'essayer par des expériences de répondre à ces questions au laboratoire. Donc ça, c'est tout un apprentissage. Pour moi, c'est tout un apprentissage, mais totalement passionnant parce que c'est se remettre en question en permanence. C'est sans arrêt de se dire, bon, étant donné les résultats de la littérature scientifique, je pense qu'il est important de se poser telle question, de définir une démarche expérimentale pour répondre à cette question, d'obtenir les résultats, de regarder les résultats et de se dire, et dans 90% des cas c'est le cas, ça répond pas du tout à la question que j'avais posée au départ. Donc c'est se remettre à nouveau en question à ce moment-là en disant mais ça va pas du tout, la question que j'avais posée soit est pas bonne, soit la démarche expérimentale que j'ai utilisée n'est pas bonne pour répondre à la question. Donc sans arrêt, c'est se remettre en question soi-même et ça en soi c'est extrêmement passionnant.
Quel lien faites-vous à cette époque entre ce que vous apprenez à la fac et ce que vous vivez au laboratoire, puisque je crois que vous êtes à mi-temps à un moment entre les deux?
Oui, j'aurais dû être à mi-temps, bien évidemment, mais comme j'étais passionnée, je passais
le laboratoire
plus,
a pris
plus,
la...
voilà, plus de temps au laboratoire que sur les bancs de la fac, je dois dire. Le lien, il se fait naturellement, puisque je viens de vous dire qu'on a besoin justement pour se... poser des questions scientifiques, de nouvelles questions scientifiques, d'avoir la connaissance de base. Et en fait, là, j'ai compris que tout ce que j'apprenais à l'université, c'était justement ces fondements scientifiques qui nous permettent après, justement, de nous poser de nouvelles questions. Donc, c'était tout cela que j'avais pas compris avant d'être réellement dans le laboratoire.
Donc ça veut dire que à la faculté, on n'enseignait pas à l'époque, en tout cas, ce qu'est la démarche scientifique, puisque ce que vous décrivez, c'est bien cela.
On enseignait tout ce qui est état des lieux, des connaissances, sans enseigner, en tous les cas, dans les premières années, parce que c'est pas vrai plus tard. Dans les premières années, au niveau licence, par exemple, on n'enseignait pas à se poser de nouvelles questions scientifiques, à avoir de nouveaux concepts scientifiques. Non, ça, c'est réellement sur le terrain que ça s'apprenait. Par contre, en fin d'études scientifiques, si on commençait à nous apprendre cela, à tel point que moi, lorsque vous parliez du DEA, par exemple, que j'ai soutenu en 1972... le DEA, c'était déjà sous un format, non pas de me faire répéter par cœur ou nous faire répéter par cœur ce qu'on nous avait appris. Non, loin de là. En fait, on nous proposait un problème, justement, scientifique déjà à résoudre et à proposer une démarche, justement. C'était une question qu'on nous posait pour obtenir ce diplôme. Et du coup, moi, comme j'avais déjà un pied au laboratoire, je dois dire que là, j'ai eu aucun problème. Finalement, ne pas aller régulièrement à l'université ne m'a posé aucun souci, loin de là. Le fait d'avoir un pied dans le laboratoire m'a été fort utile. Je dis souvent, par contre, aux jeunes étudiants, ne faites pas ce que j'ai fait. Je suis pas du tout un bon exemple. Parce que c'est vrai que c'est important quand même de suivre ses études et d'apprendre, d'avoir les connaissances de base qu'on nous enseigne au niveau universitaire. Faut simplement essayer d'avoir les deux ensemble.
Alors, la question que vous vous posez à l'époque, c'est est-ce que, en gros, la voie de chercheur est la voie que je veux suivre? Est-ce que je veux en faire mon métier? Quel est le déclencheur de la réponse? C'est-à-dire, quand savez-vous que effectivement c'est bien cela que vous voulez faire?
Oh, assez vite. En fait, très vite, une fois que j'avais le pied à Pasteur, dans le laboratoire de Jean-Claude Sherman. La passion, elle vient, comme beaucoup de passions d'ailleurs, c'est un peu un coup de foudre, un peu. Donc, c'est venu extrêmement vite. Et là, vous parliez de métier. Pour moi, très rapidement, j'ai jamais considéré que c'était un métier. C'était plutôt vivre sa passion, vivre, se faire en même temps, quelque part, un peu plaisir à soi-même, de se remettre en question, comme je le disais. C'est réellement très... on s'épanouit soi-même, à se remettre en cause, à avoir souvent des résultats négatifs et qui nous remettent en cause. Et puis quand il y a enfin le petit résultat positif, c'est le bonheur, quoi. C'est la joie. Et ces moments-là sont des moments rares. Donc, je pense que le déclic, pour moi, il a été extrêmement rapide dès les premiers mois, je dirais, où j'étais dans le laboratoire. Et puis, j'avais autour de moi, c'est vrai, Jean-Claude Sherman, qui était, je crois qu'il est toujours un homme extrêmement passionné lui-même, extrêmement enthousiaste. avec bon, on était à Pasteur, donc il y avait ce que j'ai appris encore plus tard, cet esprit pasteurien d'essayer de faire avancer les connaissances scientifiques, de faire avancer la science au bénéfice des autres. Ça, c'était déjà dans l'esprit de Jean-Claude Sherman et il essayait de le transmettre à tous ses étudiants.
Là, il y avait cette différence entre une recherche quand même assez fondamentale et puis cette perspective effectivement d'application et donc de soins aux patients qui était
Mais
pourtant la distance est grande entre
Louis
les deux.
Pasteur, oui, mais Louis Pasteur disait, il n'y a pas plusieurs types de recherche, hein. Il y a la recherche et les implications de la recherche. Et il avait totalement raison. Aujourd'hui, on met souvent des adjectifs à côté du mot recherche. Recherche fondamentale, recherche médicale, recherche appliquée, recherche opérationnelle, recherche. Recherche, recherche, Louis Pasteur serait là encore aujourd'hui, hein, mais il n'y a pas 36 recherches, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une et elles sont là pour répondre justement aux bénéfices des autres et développer ensuite des applications aux bénéfices des autres.
Quand on dit justement recherche aujourd'hui, on entend assez couramment recherche fondamentale.
Non, pas forcément. Ah, pas forcément. Non, non, non. Pour moi, la recherche, c'est un tout. Et justement, il faut aujourd'hui, et c'était la vision de Louis Pasteur, c'est pour ça que je suis très admirative, moi, sur cet esprit visionnaire que cet homme avait à son époque, de savoir que ce qu'on appelle aujourd'hui recherche fondamentale, ça doit être totalement intégré avec la recherche clinique, c'est le concept du multi, du pluridisciplinaire dont on parle beaucoup aujourd'hui. On ne fait pas de la recherche fondamentale isolément. D'abord, la recherche fondamentale, il y a plusieurs disciplines dans la recherche fondamentale. Ça doit être très interactif avec la recherche clinique ou préclinique. Ça doit être interactif aussi avec la recherche en sciences sociales et humaines, parce que ensuite, lorsqu'on veut faire de l'intervention, il faut justement comprendre quels vont être les obstacles à la mise en place de ces interventions, et ça, ce sont les recherches en sciences sociales et humaines qui y répondent. Donc, il faut tout intégrer ensemble, et Louis Pasteur avait eu cette vision-là.
Et aujourd'hui, vous pensez que cette vision
Ah ben, elle est
perdure?
complètement d'actualité, elle est plus que jamais d'actualité, c'est pour ça que je dis c'était un visionnaire à son
Non, mais
époque.
est-ce qu'elle est appliquée aujourd'hui, cette vision?
Ah
C'est-à-dire,
oui,
est-ce que l'organisation de la
oui.
recherche répond à cet objectif?
L'organisation de la recherche, j'ai tendance à dire, vous savez, la recherche, qui est-ce qui l'a fait? Ce sont les chercheurs. Si on attend à ce que ça soit les décideurs qui mettent en application la stratégie de la recherche, ça ne marchera jamais. Pour moi, là où ça peut marcher, c'est justement quand on part du bas, le bas étant les chercheurs, et qu'on va vers le haut et qu'on propose des stratégies aux décideurs. Ça, c'est notre responsabilité aussi à nous, les chercheurs, de le faire.
Françoise Barré-Sinoussi, merci et à demain.
Merci, à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Michel Alberganti avec Françoise Barré-Sinoussi. À voix nue, réalisation Delphine Lemaire, prise de son Yann Frécy, coordination Claire Poincignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.